alors, ma flatte, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir?
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça?
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Hicham.
Bonjour.
Camille.
Hello.
Et deux superbes invités en la personne, en les personnes, oh mon dieu, quelle intro foireuse, de Marlène de Culture 2000.
Salut.
Et Sarah de 2 heures de perdu, EPO et moult
choses. Bonjour. Bravo, bravo.
Donc toutes deux sous le label, sous le drapeau Fréquence Moderne.
Tout à fait. Ouais. Merci de nous avoir invités.
Oui, merci
d'être
beaucoup.
Venue surtout.
Ah oui, merci.
Un grand plaisir. Comment allez-vous?
Super.
Très bien.
Ah, au
top.
Vous avez été bien reçus. Vous avez le droit de critiquer.
On a été bien reçus.
Je me rends compte que personne ne critique à chaque fois. Je me dis que c'est peut-être parce qu'il y a des micros ou je ne sais pas.
Non, on a
parce
été super bien. Bien.
Alors super que Camille bien critique reçu. Tout le temps, elle s'en fout.
Oh bah alors moi.
Soit tu es très indépendante, soit tu es critique, soit
de toute façon, ce sera toujours moins bien qu'en Franche-Comté. Voilà.
Ouais, bon, bah c'est pas demain la veille, je te le dis tout de suite. Déjà, est-ce que vous pouvez présenter pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas? Parce que les deux autres zouzous, ça, on les connaît déjà, ça va?
Ouais, alors je vais parler juste d'abord nous deux. On fait partie de Fréquence Moderne, qui est un label de podcast natif indépendant qui réunit différents podcasts. Un podcast de plutôt humour et cinéma qui s'appelle 2 heures de perdu et dont Sarah est l'une des figures de proue.
Oui, voilà. Oui, comme qui nous présente bien Marlène.
Suffisamment talentueux pour remplir un Bataclan en 48
exactement,
minutes.
Exactement, des gens très talentueux. Puis il y a aussi EPO, l'épatant podcast Omnisport, dont Sarah fait aussi partie. C'est incroyable.
Là, là, là. C'est vrai qu'il y a un film conducteur, là. Il y a un conducteur commun.
Qui nous parle de sport. Grande partie, hein, et d'histoire du sport. Quoi,
oui, on revient sur un événement sportif passé ou un personnage du monde du sport et puis on raconte un peu l'histoire.
Non, pas ça. Pas maintenant, Zinedine. C'est le seul que je peux refaire.
Ouais. Bah, on a un épisode sur Raymond Domenech. N'hésitez pas à écouter en 2 épisodes même.
Ouais. Putain. Ça vaut le détour.
Grande aventure des Bleus.
Voilà, on a aussi Relire Tintin qui est fait par notre amie Agathe qui est une relecture de Tintin commentée, très chouette. Et le dernier podcast auquel je participe qui s'appelle Culture 2000, qui est un podcast de vulgarisation de culture et d'histoire géographie.
Oui, oui, et on avait déjà reçu Greg et Johan.
Exactement.
Comment? Saison 2, une.
Je crois. Deux de nos acolytes.
C'est tellement jadis. ouais, saison 1, c'est vachement bien d'ailleurs. C'est très,
non,
très
mais je ne crois pas que ce soit sur le mur des photos,
ouais,
non, Hicham.
Je les vois pas.
Non, mais par contre, j'ai des cartes postales.
Je ne les vois pas, je leur dirais qu'ils ont été exclus.
On n'avait pas encore la tradition.
On a Greg dans le livre d'or de l'anniversaire.
Oui.
Ah oui, je me souviens de cette soirée.
Probablement la meilleure photo du livre d'or.
Je veux la voir.
Il est toujours très très fort. Mais il nous avait ramené de magnifiques cartes postales de New York. Donc c'était encore plus touchant. Il a marché. Sur ce, de quoi on va parler aujourd'hui?
Le filage, c'est toi qui commence,
patron. Oui.
Exactement, c'est moi qui ai commencé et je vais vous parler d'un monsieur qui est un moine et de sa création qui sont les Ave Maria de Tritem.
Oui.
Voilà, vous verrez, vachement plus intéressant que ça.
Ça me laisse peu pantoise, là, j'ai hâte que tu nous racontes.
Ah, j'aime beaucoup l'utilisation du mot pantoise, pas tous les jours. Non, ça va être cool, vous verrez. Ça parle moine, pas Shaolin, mais un peu cryptographie avec des mots compliqués comme stéganographie.
Super.
Tu vas tout nous expliquer.
Ouais,
Hicham trépine d'impatience.
Ah oui.
Après, ça sera toi, Marlène.
Oui, ça sera moi pour... cette fois-ci, on a décidé d'inverser les rôles avec Sarah. C'est moi qui vais parler de cinéma. et donc, du thème de tous ces pauvres qui vont maintenant tous se venger dans 3 films dont on parlera ensemble. Voilà.
Parfait. Après, ce sera Hicham.
C'est moi. Moi, je vais faire un pourquoi.
Sur quoi?
Pourquoi.
Très bien.
Et juste,
on entretient la blague.
Oui, c'est ça.
Non, parce que là c'est, je vais vous poser une question sur mon pourquoi.
Très bien.
Vous allez devoir deviner mon pourquoi.
Si ton pourquoi c'est pourquoi j'abandonne tout, j'abandonne ce podcast.
Petite note, je suis malade donc vous allez m'entendre tousser. Je suis désolé.
Très bien. Eh bien, on lavera les bonnettes, que veux-tu ?
Oui. Voilà.
Après, ce pourquoi, ce sera au tour de Sarah.
Oui, alors moi, je vais parler People, d'Henri VIII et de ses 6 femmes.
J'ai tellement hâte. Parfait. C'est... Tous les mots-clés vont ensemble. Très bien. Et après, on va finir par Camille.
Absolument. Et moi, je vous parlerai de mouches. Voilà.
De la mouche.
Oui,
de mouche. Mystère, mystère.
Voilà.
Ok, donc tu n'en dis pas plus.
Non.
Donc, tout le monde connaît ta passion pour les sciences et pas du tout pour le Moyen-Âge.
À chaque fois que j'ai fait des chroniques scientifiques, c'était quand même...
C'était surprenant, mais intéressant.
C'était quelque chose, on peut dire ça.
Du coup, il y a ma data, clairement. mon Dieu, chacun sa référence. Sur ce trêve de galéjade, je vais commencer par, par l'histoire de ce cher monsieur de Tritem.
Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi. Ça va péter dans 15 secondes.
Nous y en êtes espions français. Ich bin der französische Espionner. I am Fassbinder.
Magnifique.
C'est beau la façon dont tu ris énormément à tes propres jingles.
Même moi, je ne le fais pas.
Bah écoute, il faut savoir s'amuser d'un rien. Voilà.
Oui, tu es une heureuse nature.
Exactement. Sur ce, voilà, ce sera un sujet assez court. Bon, je pense que ça va être le principe de la prophétie auto-paralysatrice, parce que je le dis, mais c'est pas sûr qu'il soit court. Mais voilà, je vais vous parler des Ave Maria de Tritem. En fait, plus particulièrement, de ce cher Johannes Tritemius, en français Jean Tritem, né dans la moitié du 15e siècle. En fait, c'est un moine allemand et originaire de la ville de Tritem, comme son nom l'indique, parce qu'en allemand, c'est Johann von Tritem. Voilà, Johann de Tritem, tout simplement. Il est né Johannes von Heidenberg. Vous voyez que j'ai un accent allemand pas vraiment ouf. Ouais. Et son chemin vers la vie monastique est plutôt drôle, je trouve, parce qu'en fait, à 20 ans, à base, il a une enfance pas très cool. Bon, ça, c'était pas le côté drôle. Il a une enfance pas très cool, un peu galère et tout. Mais à 20 ans, voilà, il part en voyage pour rendre visite à sa mère. Et il se fait surprendre par une grosse tempête de neige. Et il va se réfugier dans une abbaye, un monastère. Abbaye, monastère, Camille, est-ce que t'as des indications pour
dire non, mais c'est pas ça, c'est qu'il est allé soit dans une abbaye, soit dans un monastère.
Okay,
mais n'étant pas là au moment des faits, je peux pas trop te le dire.
Voilà. Je crois que c'était une abbaye, mais.
Peut-être. Ou un monastère, du
coup. Parce que selon les sources, on dit qu'il est moine et qu'il a été élu abbé par la suite, mais du coup, je saurais pas dire.
Il a peut-être changé de.
Ouais, c'est ça.
Déménager, quoi.
Il a fait une reconversion.
Voilà, mais mettons. Il a vu un édifice qui était une abbaye et il est rentré dedans. C'est une abbaye en plutôt piteux état, pardon. Et en fait, donc, il passait juste pour s'abriter de la neige et de la tempête. Et il s'est pris de passion pour ce lieu et il a décidé de s'y installer. Et il devient moine dans la fin, moine ou
abbé.
Non, pas abbé parce qu'il est
moine. Oui.
Il rentre dans les ordres quelques mois après. Et en fait, on se rend compte que ce petit, il a quand même plutôt de l'ambition parce que à peine 2 ans plus tard, il est élu abbé. Donc en gros guide de la communauté, si je dis pas de bêtises.
Okay, c'est ça.
Et il entreprend une grande politique de rénovation de l'abbaye parce qu'elle est dans un plutôt sale état. On découvre aussi que ce mec, il est plutôt passionné de connaissances. Alors, c'est un peu facile à dire comme ça, mais à l'époque, je rappelle, fin du 15e siècle, c'était pas forcément facile d'avoir accès à des connaissances qui venaient, déjà des connaissances tout court, et puis des connaissances qui venaient d'ailleurs en plus. Il s'est lancé comme projet, donc non seulement de rénover les bâtiments, mais aussi de donner toute une puissance supplémentaire à la bibliothèque du lieu. À la base, quand il est arrivé, ça faisait un petit peu pitié. Dans la bibliothèque de l'abbaye, il y avait une cinquantaine de bouquins. Autant dire que même chez moi, j'en ai plus. Bon, c'était pas les mêmes, hein, parce que je pense qu'eux, ils avaient pas des ouvrages d'Asimov et des trucs comme ça. Ils avaient des trucs peut-être un peu plus poussés.
Puis ça prend de la place, un bouquin à l'époque, quand même.
Oui, oui, voilà. Et puis, c'était écrit à la main, donc c'est pas la même. J'aime pas beaucoup écrire à la main, plutôt pas. Mais bon, quand même, 50 bouquins pour une abbaye, c'est pas ouf. Et puis, t'en as vite fait le tour. Il en fait un sacré joyau, puisque, à force de travail, cette bibliothèque, elle va atteindre plus de 2000 ouvrages en quelques années, avec des ouvrages en grec, en latin, plein de trucs. Enfin, le mec a fait un sacré taf.
Il a fait des brocantes du coin.
Exactement.
Il a cherché quelques bouquins.
Mais en fait, il a tellement chiné que ce lieu est devenu vraiment une référence en Allemagne et autour. Donc, il a vraiment attiré des érudits partout. Donc, ça a contribué en plus à faire rayonner et attirer des personnes brillantes. Donc, je ne sais pas par quelle magie, mais il a fait le taf. Ce que je trouve, dans tout son parcours, pardon, je trouve ça assez drôle parce que tu sens qu'il est, il est passé par là, il a vu de la lumière, il est rentré, mais il a quand même fait des trucs de ouf. Donc, je trouve ça assez impressionnant. Donc ce cher monsieur, non seulement il se dit hey, je vais me faire élire abbé, je vais rendre le bâtiment plus cool, ramener des bouquins, et en plus on s'est rendu compte que qu'il avait un talent, une vocation pour l'écriture, parce qu'il écrit plusieurs ouvrages très variés. Alors pareil, ça m'impressionne beaucoup parce que le mec, il aurait pu être prêtre, journaliste, scientifique. Il écrit des ouvrages théologiques, des ouvrages de recherche un peu plus poussés, on va dire, un peu scientifiques, des réflexions, des essais, des trucs assez ouf. Ça aurait été un très bon chroniqueur de Pardon Maman, au passage. il a écrit des traités d'histoire, enfin des trucs assez ouf, et des écrits de stéganographie. Je vous expliquerai juste après ce que c'est. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à lui. En tout cas, j'ai entendu parler de cette personne. On va vite voir que c'est un sacré personnage, mais comme on disait tout à l'heure en pré-épisode, autrement appelé l'apéro, chez Pardon Maman. Mais en fait, voilà, comme beaucoup de personnes brillantes, clairement, on ne le méritait pas.
Il a été un peu incompris.
Voilà, il était trop brillant pour son époque et ça lui a créé des soucis. Si je vous parle de stéganographie, j'ai bien écrit parce que là, j'ai pas bien écrit. Stéganographie, c'est ça.
Comment tu l'écris?
Te tourne pas vers
pas
le
sympa. Stéganographie.
Ouais, mais c'est comme ça, je fais genre, ouais, attends, je suis en train de chercher la racine là pour te dire ce que ça veut dire. Je l'ai pas. Okay.
Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer ce que ça veut dire?
Alors, steg, ça veut dire quoi, steg?
C'est un petit bout de viande.
C'est
bien.
Ouais, ce que j'allais dire.
Ah, on est sur
steg haché.
Moi, je sais pas si c'est ça, mais il a pas inventé une façon de crypter en fait les lettres.
Oh là là, mais elle est tellement forte.
Enfin, des bouts de phrases.
C'est ça. C'est
ouais, moi, je pensais au sténodactylo, non? On disait pas ça là.
Sténographe.
C'était, ouais. Qu'avec des abréviations, quoi.
C'est lié à ça, hein, que la stéganographie, en l'occurrence, c'est l'art de la dissimulation, ce que j'appelais le ninjutsu de la plume. c'est une façon de. J'étais très créatif dans l'écriture de ce sujet. Pour une fois, j'ai pas eu honte de mettre des blagues. Vous me direz après si c'est une réussite ou pas.
Bienvenue au club.
Donc, en fait, c'est une façon de cacher un message dans un autre grâce à un code. Donc lui s'est beaucoup intéressé à la stéganographie et il a même écrit plusieurs ouvrages dessus. Donc notamment en 1499, il sort un ouvrage qui s'appelle Steganographia. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire.
Steganographie.
Voilà.
C'est trop fort.
Ah, c'était vraiment la réponse que t'attendais.
Non.
Mais alors, je sais pas, mais c'est peut-être un peu risqué de faire de la stéganographie à l'époque, non? Parce que en fait, il va passer pour un espion, le mec.
Non,
enfin, je sais pas.
Pire, pour un magicien.
Sorcier.
C'est exactement ça. Ce qui
pourtant, on
aimait
plutôt les sorcières.
C'est là qu'on découvre le côté farceur du monsieur, parce que donc stéganographie, en fait, ça se découpe en trois ouvrages. Et en fait, quand on les lit tels quels, vraiment les phrases ont un sens, etc. Et on a l'impression que c'est des ouvrages, c'est comme un tuto pour communiquer avec les anges. Je simplifie, mais en gros, c'était communiquer avec des esprits supérieurs. Et
c'est Blair Witch en
mais
fait.
Mais ça me pue un peu d'écrire ce genre de bouquin en pleine chasse aux sorcières quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est une idée un peu nulle. Mais
Non, parce que là, en l'occurrence, c'était vraiment théologique et en gros, comment pas s'adresser aux anges, mais enfin, c'était vraiment.
Okay, c'est avec l'au-delà, quoi. Enfin, avec
Pas forcément l'au-delà, mais avec des engeances divines.
Ça va être Kardec, le mec.
Ouais, non, mais c'était un délire. Mais tu vois, ça peut quand même passer pour un truc divin, religieux. Mais effectivement, il y avait quelque chose de caché là-dessous, puisque donc 7 ans plus tard, en 1606, il publie le code qui permet de révéler le sens réel de ses ouvrages, enfin des deux premiers ouvrages. Donc c'est un traité, et en fait, ces ouvrages étaient un traité de stéganographie. Donc ce mec s'est fait chier à écrire trois bouquins codés qui avaient un sens, et en fait, avec un sens caché en dessous.
Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Et il avait du temps à l'abbaye, mine de rien. La compta et tout, ça lui prenait pas beaucoup de ses journées, quoi.
Je pense qu'il était surtout hyper actif de ouf. Ouais. Parce que là, il a vraiment fait un ouvrage scientifique plutôt costaud. Le mec était plutôt fort, quoi. Du temps, je sais pas, mais j'ai envie de dire mal utilisé. Je sais pas non plus, mais en tout cas, ça lui a causé du tort. Là, j'ai un petit chapitre que j'appelais le démon, parce qu'effectivement, le pépère, en l'occurrence, il était en avance sur son temps, mais beaucoup trop. Parce que, un adage que j'aime bien, c'est que toute technologie suffisamment en avance sur son temps peut passer pour de la magie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que les gens ont dit, genre, putain, c'est chaud ce qu'il fait, je comprends pas. C'est genre, oh le bâtard, il fait de la magie de ouf. Et du coup, ils ont
utilisé le mot bâtard.
Ah, c'est pas impossible, mais pas avec le même sens.
C'est vrai.
Mais non, en fait, ils l'ont pris pour un magicien, sachant qu'en plus, il avait révélé le code uniquement pour les deux premiers ouvrages, donc pas pour le troisième. Donc le troisième, on l'a pris pour un traité de magie, avec des formules magiques, etc. Alors que non, c'est juste qu'il jouait avec les mots. Le mec, il faisait de la poésie scientifique, stéganographique. Et on l'a pris pour un mage de l'ombre. Ce qui a plutôt mal tourné. Donc ça lui a donné une réputation un peu sataniste et on a douté de sa foi alors qu'il était irréprochable. Il a écrit plusieurs écrits théologiques et a toujours prouvé qu'il était, il œuvrait dans le bon sens de l'abbaye. J'ai écrit monastère quelques fois dans mes documents, mais c'est une abbaye normalement. Parce qu'un abbé, c'est dans une abbaye, non?
Édifice religieux.
Voilà, dans l'édifice religieux. On n'a qu'une... Bon, bref.
La connivence catholique.
Ouais, voilà, parce qu'une mosquée sont moins étonnée. Mais il était plutôt irréprochable. Mais pourtant, il s'est fait quelques ennemis. Et pour le punir, parce qu'à l'époque les gens étaient plutôt pas chaud pour ni pour le débat, surtout pas religieux. Et quand ils comprenaient pas un truc, ils étaient plutôt chauds pour cramer le truc qu'ils comprenaient pas. Là, c'est ce qui s'est passé. Le mec, comme on disait tout à l'heure, après avoir juste vu la lumière et être entré dans un bâtiment, l'avoir rénové, ramené des bouquins, transmis la connaissance, etc. En fait, ils ont cramé sa bibliothèque pour le punir. Après quoi, il était un peu vénère et en fait, il s'est barré. Il a donné sa démission. Il a changé d'édifice religieux. Alors pour moi, c'est vraiment un transfert parce qu'il y a une autre abbaye qui lui a proposé de devenir responsable de cette.
Lui a demandé sa mutation en fait.
Non, on lui a proposé, on l'a débauché.
D'accord. Oui, c'était un peu fait dégager avant, je crois.
Non, vraiment, le mec pesait et je vous avoue que j'ai marqué soutane drop. Voilà, ça l'a saoulé. Il a lâché sa soutane. Et c'est mort, je me barre. Voilà. Et il s'est barré autre part. Sur ce, voilà, ça c'était effectivement pour parler de la puissance intellectuelle de cette personne, parce que je suis quand même plutôt impressionné par ce qu'il a pu produire. Je vais vous parler plus en détail de l'Ave Maria de Tritem, on va pas refaire toute sa vie, parce qu'il a vraiment écrit beaucoup de choses. Mais l'Ave Maria de Tritem, donc il a écrit plusieurs codes. Je sais pas si vous savez comment fonctionnent certains codes de chiffrage, cryptage, etc.
0 et 1, non, c'est pas ça.
Pas forcément, il y a des choses plus simples, en fait, avec simplement soit des inversions de lettres, soit des décalages de lettres, par exemple. C'est les codes les plus simples.
Oui, ça, je l'avais fait au collège, mais le prof, il avait compris ce que j'avais écrit, quoi, du coup.
Voilà, sauf que lui, il a trouvé ses premiers systèmes étaient un peu plus poussés, c'est-à-dire que, en gros, le code pour chaque lettre changeait à chaque fois. Donc la première lettre n'était pas codée comme la deuxième. Une fois que tu connais le code, ça va, parce que tu as une grille qui te permet de décoder chaque lettre. Alors par exemple, le A, en gros, pour le A, tu as une grille qui permet de savoir quoi. Enfin, la première lettre, tu as une grille qui permet de savoir comment la décoder, la deuxième lettre, etc. Et puis ça tourne comme ça.
D'accord.
Donc c'est plutôt simple au final.
Mm-hmm. C'est long. Ça prend un peu de temps quand même.
Ouais. Là, vous allez voir, pour l'Ave Maria, ça prend beaucoup de temps. ça prend beaucoup de place surtout. Ça prend beaucoup de place. Voilà, avec des décalages de lettres, des suppressions de mots. Enfin, il y a des mots qui servent à rien dans les phrases. Enfin, ce que je trouve magique de ouf, c'est surtout une fois que t'as créé le code, certes, mais faire un message qui a du sens avec un sens caché. Putain de Dieu, faut s'accrocher quoi. Enfin, putain de Dieu. Pardon. Putain de d'engeance. Putain d'engeance divine. femme de joie, d'engeance divine. Bref, je pédale. Donc, ce pourquoi je me suis intéressé à lui, en l'occurrence, ce sont les Ave Maria de Tritem. En fait, donc, c'est une façon de cacher des messages dans des litanies. Camille, peux-tu nous éclairer sur les litanies?
Alors, non, litanie, c'est un texte religieux, mais alors après, dire exactement ce que c'est. Enfin, c'est des louanges.
Oui, j'ai marqué des prières religieuses de la gloire de Dieu. Putain, j'étais bien. Ouais, me faire approuver par Camille sur un truc historique, je suis plutôt content.
Faut peu.
Arrête, non, j'arrête. Donc, une façon de cacher des messages, en fait, ça m'a fait réfléchir de vous parce que ce mec réussissait à. Enfin, il a créé un code pour cacher des messages donc dans des prières religieuses. Et je me suis dit, alors je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne après, mais je me suis dit, putain, en fait, ça se trouve quand. Les quelques fois où vous avez pu voir une prière, aller à la messe, un mariage et tout, ça se trouve le prêtre il balance un message codé de ouf et on sait pas. Alors comment ça fonctionne? Chaque lettre est codée par une suite de mots et tout ça doit faire un message à la gloire de Dieu. Donc par exemple le A, alors il y a un code français et un autre en latin, mais c'est juste la même chose traduite. Moi j'ai pris la version française parce que c'est un peu plus pratique, surtout parce que j'ai un accent latin plutôt pas très bon. Le A, par exemple, c'est codé par dans les cieux, le B par à tout jamais. Le C par un monde sans fin, D en une infinité. Donc par exemple, si je vous dis dans la divinité dans les cieux, dans la divinité dans les cieux, dans la félicité en une infinité, pour toujours au paradis, dans la lumière dans les cieux, dans la lumière dans les cieux, au paradis.
Ça veut Amen.
Dire, ça veut dire pardon maman. Donc ça prend un petit peu de place.
Ouais. Ce qui est bien, c'est que dans les litanies, on peut toujours répéter les mêmes trucs, ça se voit pas
ouais,
quoi.
Ça passe. Ouais, donc, ça.
Exactement ça, mais je trouve ça ouf parce que si tu vois le texte, tu te dis oh, ok, moi qui suis pas spécialement croyant. Dans les cieux, dans la gloire, dans la lumière, dans l'avènement, tu bois très bien. Enfin, non, je trouve ça assez ouf. Et effectivement, ça m'a fait réfléchir au fait que, en fait, ça se trouve, il y a plein de messages qu'on voit assez régulièrement et qui cachent, enfin, qui ont un sens caché qu'on ne soupçonne pas forcément. Et je trouvais ça assez ouf. Et ce sera un non mic drop pour moi.
Mais c'était super intéressant, écoute. Merci beaucoup.
Merci.
Tout à fait.
Et si vous voulez écrire votre prochain sujet en Ave Maria de Tritem,
non, plutôt pas d'accord.
Là, vous avez vu, pour pardon maman, ça prend déjà de la place. Ouais. Pour la suite, ça va être chaud. Sur ce, il me semble que ça va être au tour de Marlène.
Ouais.
Mais les pauvres, viens, pourquoi tu les engueules, salauds de pauvres? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-il la faute des gens s'ils sont pauvres?
Attends, hey, qu'est-ce qu'on fait pour le refrain? On dit quoi? Il y en a plein le cul des pauvres? Ou on dit il y en a marre des pauvres?
C'est quand vous voulez, par contre.
C'est vraiment une excellente référence. Je suis contente que tu aies choisi celle-là pour ma chronique.
Merci, Ardi, dit super.
Exactement. Bah, donc, comme je l'ai dit en introduction, hein, ce soir, on a décidé d'échanger les rôles avec Sarah pour ceux qui nous connaissent. Donc, je vais parler de cinéma. Et à l'affiche ce soir, donc, trois films, Joker, Bacurau et Parasite, qui sont trois films qui ont marqué le cinéma cette année, en 2019, qui ont tous été primés dans les plus grands festivals de cinéma.
Et que tu vas tous nous spoiler.
Et que je vais tous vous spoiler, j'espère que vous êtes contents. Voilà.
Ah oui, alors c'était pas une blague, en vrai, d'ailleurs.
En
si,
vrai.
Si vous voulez ne pas être spoilé, laissez tourner, baissez juste le son, comme ça, ça nous fait quand même des écoutes.
Voilà, et bon, il n'y a pas du très gros spoil, parce qu'en gros, bon, enfin, ça... C'est des films où on s'attend un peu à ce qui arrive. C'est pas l'histoire qui est le cœur du film,
c'est
mais
chemin.
Bon, quand même. Donc, juste pour marquer le décor, hein, pour planter le décor, on va commencer par la Corée du Sud et ses quartiers huppés de Gangnam, dont vous avez sûrement déjà entendu parler.
Absolument.
Avec le film Parasite, donc du réalisateur Bong Joon-ho, qui a reçu la Palme d'Or cette année. Hein. On va poursuivre ensuite avec le film des réalisateurs Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles qui s'appelle Bacurau, qui est un film brésilien qui a été prix du jury à Cannes. Et on terminera chez Monsieur Trump avec le film Joker de Todd Phillips qui, étonnamment, est le réalisateur de la série des Very Bad Trip.
Et qui, tout pareil.
Et oui, et qui, là, a été récompensé par le Lion d'Or à Venise. Voilà. Okay. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ces trois films? Bonne question.
Que tu es de gauche.
Pas du tout.
Pour ceux qui n'écoutent pas Culture 2000.
Quoi? Culture 2000? Ils sont de gauche? What?
Non, je dis ça pour blaguer.
Tout s'écroule.
Cool. Pas du tout. En tout cas, en effet, c'est pas pour vous parler carnet de voyage et vous proposer un tour du monde miniature, ni pour vous permettre de briller en société. Ça, je me réserve ce bon droit en parlant des meilleurs films de l'année. Mais plutôt parce que, étonnamment, ces films qui ont été produits aux quatre coins de la planète ne cessent de résonner entre eux et surtout avec l'actualité de cette année. Et c'est vrai qu'en fait, il est assez surprenant que tous les jurys les plus huppés et pailletés des grands festivals de cinéma aient eu en commun de choisir des films qui tous laissent la place à une critique sociale et politique radicale, voire révolutionnaire. Surtout, ils laissent une place très importante à la question de la violence, de la vengeance, et de la vengeance de pas n'importe qui, celle des dominés, celle des pauvres, celle d'en bas. Comme si, enfin... ont laissé aux pauvres la possibilité de prendre leur revanche. Bref, excitant programme pour vous, dont je vous donne les pitchs tout de suite. Attention, les spoilers arrivent.
Ah.
Donc, le premier film en lice, c'est Parasite. Parasite, donc, c'est le film qui a eu la Palme d'Or et qui réalise une prouesse, c'est que c'est à la fois un film social, une comédie parfois burlesque, aussi un thriller avec des accents parfois même fantastiques.
Ah, est-ce que je peux me permettre de te couper juste pour demander autour de la table, déjà, qui a vu ce film?
Je comptais voir Parasite. on me l'a conseillé en début de semaine.
J'étais à la table.
Alors, voilà, je peux évidemment dire que c'est génial parce que j'ai adoré ces trois films. Hein, mais...
ouais, moi, j'ai vu Parasite et le Joker. Et okay. J'ai beaucoup aimé les deux.
Voilà.
Non, j'en ai vu aucun des trois.
Ah, okay. Moi non plus.
Voilà.
Total découverte, et tant mieux parce que je vais très rarement au cinéma, malheureusement. Mais...
Bon, bah alors, du coup.
Moi, parfois, entre deux heures de perdu, j'arrive à aller voir un vrai film au cinéma.
En tout cas, Parasite, qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit de l'histoire d'une famille pauvre de Séoul qui parvient progressivement et par différents subterfuges qui sont au départ assez drôles hein, à s'infiltrer dans la maison d'une famille très très riche, au contraire. Et donc, c'est une sorte de... La vie est un long fleuve tranquille, mais coréen. Voilà. Non, mais pour, faire, pour planter le décor, encore une fois, le film donne donc à voir la confrontation entre deux mondes, les riches et leur maison ultra moderne, leurs fringues de luxe, leurs bonnes manières, et de l'autre côté, les pauvres qui vivent dans les sous-sols de la ville, puis carrément après, dans le sous-sol de cette fameuse maison, et qui ont des manières qui, là, sont bien moins délicates et qui sont surtout méprisées par cette famille beaucoup plus riche. Tout ça va conduire à une explosion de violence du père de la famille la plus pauvre, qui ne trouve d'exutoire à sa situation de dominer et d'humilier sans cesse que dans le meurtre du père de la famille la plus riche. Voilà. Deuxième film en lice. Passons maintenant à Bacurau, qui lui se situe au Brésil. Donc là, c'est un film brésilien qui se déroule dans le nord-est du Brésil, c'est-à-dire les régions les plus pauvres, dans une région particulière qui s'appelle le Sertão, qui est une région qui est semi-aride, hein, qui est un peu désertique.
Oh, un petit accès de culture 2000, là.
Voilà, ça c'est mon côté géographe. Donc il met en scène un village qui s'appelle justement Bacurau, qui est très isolé, sans service public, en quasi-autogestion, dans lesquels les habitants apportent même leur eau, font l'école à la maison, etc. Donc, on pourrait croire qu'il s'agit d'une communauté de gros massifs qui vivent
deuxième effet culture d'Amérique
voilà, tout seuls. Mais on se rend vite compte qu'en fait, ils n'ont pas vraiment choisi leur mode de vie hippie. Et surtout, subitement, leur village disparaît de la carte, tout simplement. Il n'apparaît plus sur les satellites, il n'existe plus. Et des assassinats commencent à être commis partout dans le village. Et les habitants vont donc s'organiser et résister à ces assassinats dans la violence. Ici aussi, on mélange les genres, entre le film social, un genre de western, de blockbuster aussi, et un film de survie. Donc c'est très étrange. En tout cas, les habitants se sauvent en anéantissant leurs ennemis, qui sont des Américains, qui en fait ont choisi de faire de leur village un genre de Counter-Strike géant et de venir tout simplement les faire disparaître. On ne sait pas trop pourquoi, mais on se rend compte que finalement tout ça a été commandé par le politicien brésilien du coin qui est complètement corrompu et qui a besoin en fait que ce village disparaisse. Voilà.
Ça a l'air... Le pitch a l'air démon.
Et c'est vraiment... très surprenant et génial. Voilà.
Okay. Ouf, je suis très curieux de voir le style de Réal, mais en tout cas, le scénario a l'air...
Et je recommande d'ailleurs les trois films de ce réalisateur qui sont tous géniaux.
Okay.
Et enfin, dernier hit du moment, le Joker, qui lui raconte la métamorphose d'un pauvre habitant de Gotham en monstre. Donc le Joker qu'on connaît tous dans les séries Batman. On y voit donc ce pauvre Arthur Fleck qui est en proie à la maladie mentale, à la pauvreté, dans une ville qui elle aussi n'a aucun service public et qui est dominé par les ultra-riches. Il est sans cesse humilié jusqu'à ce qu'il déborde et se venge dans la violence, entraînant avec lui des milliers de personnes et finalement le chaos.
Je sens qu'il y a un dénominateur commun entre ces trois films.
Mais voilà, merci. Donc,
pas que la pauvreté.
Maintenant qu'on a établi ce programme, revenons plus en détail sur ces films.
C'est que les pauvres sont violents de manière générale.
Et c'est ça le propos. Merci Sarah. Et donc, qu'ont-ils en commun ? Alors, première chose, donc d'abord, ce sont tous des films qui traitent en effet des inégalités sociales, la question de la domination et de la confiscation du pouvoir dans des pays qui sont censés être démocratiques aujourd'hui, et dans des contextes qui sont très différents géographiquement, mais qui ont tous le point commun d'être des contextes néolibéraux. tous mettent en scène une société qui est donc extrêmement divisée, où le pouvoir semble être monopolisé par une caste qui est plus ou moins visible, mais qui en tout cas est très puissante et ne laisse que des miettes aux plus pauvres, de manière souvent très caricaturale dans chacun de ces films, et pour accentuer cette division. En tout cas, à chaque fois, il n'y a aucune prise en charge des besoins de la population. Elle vit soit dans la misère, soit dans les sous-sols de la ville dans Parasite, comme je vous l'ai dit, dans des taudis dans le Joker, soit dans le dénuement total dans le village de Pacurao. En tout cas, donc, il n'y a pas de prise en charge psychiatrique pour le Joker. Dommage pour tout le monde.
C'est
pas d'eau, pas de transport, pas de santé, pas d'éducation à Bacurau.
Pas de palais.
Et voilà.
Pas de palais.
Et à chaque fois, en face, une minorité très riche qui vit dans le luxe, dans Parasite, qui contrôle les médias et la politique dans le Joker et qui a des services et des technologies meurtrières pour les Américains dans Bacurau.
Ce qui est horrible, c'est que du coup, ça met en avant le fait que le seul recours des pauvres, c'est la violence.
Eh bah ben oui, on va arriver à ça. Donc en fait, ce qui étonne, c'est que en fait, tous ces films ne sont pas des films sociaux a priori, mais ce sont des films sociaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'aller voir un film des frères Dardenne, voilà. Non, c'est en clair. Fait, ça ressemble plutôt à du Tarantino. Ça gicle de partout, c'est souvent gore, mais pas non, pour le plaisir. Et le sang et les boyaux explosent, comme les inégalités surtout. Ça fait en fait écho au fait qu'en 2019, je le rappelle, 26 milliardaires détiennent autant que la moitié de l'humanité. Et que, par exemple, les 0,01% des Américains les plus riches ont vu augmenter leurs revenus de 300% depuis 1980, quand la moitié de la population des États-Unis n'ont vu leurs revenus augmenter que de 30% sur la même période, sans compter l'inflation. Bref, tout ce que nous disent ces films, c'est donc bienvenue dans la loi du marché, mais ils donnent surtout une réponse, comme tu le disais, à comment est-ce qu'on réagit à tout ça ? Eh bah, bien, il nous donne une réponse extrêmement clairvoyante.
Cramer tout.
Mais aussi, finalement, un peu dérangeante, c'est que la seule réponse envisageable serait la violence, en effet. Dans les trois films, la violence explose à différentes échelles, d'un individu pour le Joker, d'un village dans Bakura, et puis aussi juste d'une maison dans Parasite. Mais dans tous les cas, on ne parle pas de n'importe quelle violence, attention. On voit une réaction qui n'est qu'une réaction de violence face à une violence qui serait plus grande, celle que les plus puissants exercent sur les plus pauvres, et donc une violence qui est présentée surtout comme légitime. Et c'est ça le point commun de tous ces films et qui fait, à mon avis, écho à toute cette année 2019 qui va bientôt se clore.
Et puis malheureusement instinctive et irréfléchie, ce qui fait que ça sert en partie à excuser le propos de la violence dans les films. C'est genre oui, mais en fait c'est pas un vrai méchant, c'est juste que ah il est violent sur le coup, etc. Ouais. Et du coup ça délégitime le truc, mais ça rend les pauvres d'autant plus bêtes parce que c'est pas une vengeance qui est réfléchie. Et
alors là ça dépend des cas pour le coup. Ouais, c'est pas qu'une violence irrationnelle, c'est aussi une violence qui est justement comme justement une forme de réappropriation du pouvoir par ses plus pauvres. C'est ça qui est assez intéressant, surtout quand on a vu tout le mouvement social des Gilets jaunes en France, par exemple, l'année dernière, qui a posé cette question de la violence. Hein. C'est un débat qui revient à chaque fois en fait, qu'on a des mouvements sociaux révolutionnaires, de savoir si toutes les violences sont acceptables ou si, au contraire, toutes les violences sont condamnables. On l'a revu dernièrement avec Extinction Rébellion, qui, lors le début octobre, a condamné toutes les formes de violence, et même au même titre les violences policières que les violences contre les policiers, ce qui a fait beaucoup de bruit parmi certains milieux radicaux qui ont expliqué qu'en fait on ne pouvait pas mettre au même niveau ces deux types de violences.
Et du coup, pour rappel, ils ont fait des manifestations violentes, mais absolument non violentes, donc avec des
je sais pas, avec de désobéissance civile.
Voilà, donc en fait ils sont posés dans la rue, des ils sont cadenassés, etc. Mais ils ont pas balancé de fumigène, ils ont rien fait d'autre que juste occuper l'espace.
Ouais, exactement.
Il peut être casseur, quoi.
C'est ça.
Non, plutôt clairement pas.
Non.
Buvez de la soupe.
Sachant que, encore une fois, sur cette question de la désobéissance civile, tout le monde n'est pas d'accord parce que certains expliquent que la non-violence, en fait, pour certains, la non-violence, c'est juste la non-violence contre les êtres humains et que donc casser des vitrines et des commerces, ça reste de la non-violence.
Non-violent.
C'est de la violence contre un système, mais pas contre des gens. Tandis que pour d'autres, comme ceux d'Extinction Rébellion, il y en avait beaucoup qui prenaient plutôt une non-violence radicale, c'est-à-dire avec aucune casse, par exemple. Voilà. En tout cas, ces films donc interrogent la violence comme moyen, surtout efficace aussi, de révolte, et du coup posent la question de est-ce qu'on peut en user, jusqu'où, contre qui. La non-violence, pour le coup, ici n'apparaît pas du tout comme un recours. Puisqu'il s'agit en fait de répliquer contre une violence qui serait beaucoup plus forte, qui est une violence à la fois sociale, mais aussi physique.
Oui, parce qu'au final, dans Bakurao, c'est ça ?
Dans Bakurao, on essaye vraiment de les éliminer.
Voilà, je les vois mal faire une désobéissance, genre, on reste allongé par terre. Voilà. Vous allez vous faire buter.
Du coup, ce que ces films laissent penser, c'est premièrement que l'État néolibéral exerce une violence sociale qui mérite qu'on s'insurge contre elle.
C'est faux, Marlène. Non, je ne peux pas te laisser dire ça.
Là, c'est
et pourquoi,
Madame Nittenberg, vous êtes hystérique, je ne peux pas vous laisser dire ça.
Et pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce qu'en fait, la non-violence ne serait pas audible et pas écoutée dans notre société. On peut s'interroger en effet sur ce propos aujourd'hui quand on voit que le G7 de Biarritz a été un des plus non-violents de toute l'histoire et un de ceux dont on a le moins parlé aujourd'hui et qui fait réfléchir du coup sur le fait que les contestations finalement ont l'air encore une fois d'être toujours moins entendues quand elles ne sont pas violentes. Finalement, ça donne l'impression que les dominants tremblent quand on entend les plus faibles et leurs revendications et qu'on arrive à les entendre que quand ils font peur. Autre idée qui apparaît, c'est que l'État exerce aussi une violence physique qui mérite qu'on se défende de lui par la violence aussi et que du coup, cette violence pour se défendre serait toujours légitime. Par exemple, les violences contre les violences policières ou les violences contre le système économique qui se traduiraient par des pillages, des destructions de commerce comme on le voit à la fin du Joker.
Sachant qu'aussi quand on parle de violence policière, c'est pas une critique, mais il y a un petit abus de langage parce qu'il y a à la fois les CRS, donc l'armée, si je dis pas de bêtises, et la police qui sont deux entités différentes. Ouais. Mais qui,
c'est l'armée, les CRS.
Si je dis pas de bêtises, je crois. Hein.
Je sais pas. Les gendarmes sont l'armée, mais les CRS.
Ouais, les CRS, j'ai un doute. Hein.
Bon, du coup, c'est peut-être les gendarmes. Mais ouais, il peut y avoir ces deux entités qui vont interagir sur ces événements, ces manifestations, etc. Et ouais, du coup, c'est triste, mais bon, on dit violence policière, mais ça peut venir autant de l'armée que de la police.
Ouais. En tout cas, ce qui m'intéressait aussi avec ces films, c'est que l'actualité nous rappelle leur pertinence aujourd'hui avec ces questionnements sur la violence, puisqu'aujourd'hui éclatent des manifestations et des émeutes à peu près partout dans le monde, et justement contre cette absence de services publics, contre la hausse des coûts qui sont sans cesse répercutés sur les plus faibles. Ça a été le cas avec les Gilets jaunes en France, je ne vais pas m'éterniser, mais c'est aujourd'hui aussi le cas au Liban, en Équateur, au Chili, où les gouvernements ont tour à tour tenté d'augmenter le prix des communications téléphoniques, des carburants, des transports publics, alors même que le niveau de vie ne cesse de baisser et que des cadeaux sont faits aux grandes entreprises sous couvert de ruissellement qui serait à venir. Bref, tous ces mouvements, bien qu'ils présentent des causes et des contextes très différents, montrent que l'explosion de la violence invite les gouvernements à écouter les peuples et que les peuples voudraient enfin décider pour eux-mêmes de leur cadre économique. Voilà. En tout cas, la dernière question que ça pose, c'est du coup, mais après nous, le déluge, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben non, un peu d'optimisme quand même pour terminer. Les réalisateurs n'apportent pas tous forcément une réponse, du moins pas les mêmes. Mais pour autant, ils ont en commun de mettre en avant une réponse collective qui serait une certaine forme de solidarité des dominés qui naîtrait de cette violence quand même et qui serait quelque chose à garder. Dans Parasite, du coup, Bong Joon-ho, le réalisateur, même s'il montre l'être humain dans ses côtés les plus bas, montre les liens familiaux de cette famille pauvre comme les dernières frontières de l'humanité, finalement, les derniers liens de solidarité qui subsisteraient à la fin du chaos. Et quant au film Bacurau, la réponse à la menace réside aussi dans l'autogestion de ce village, dans une solidarité qui se met en place face à la menace. Et ensuite, les réalisateurs montrent un village qui serait une sorte de miniature du Brésil, avec des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des transsexuels, une multitude de professions. Transgenre, oui, t'as raison. Donc de la médecin jusqu'à la prostituée, et aussi avec une multitude d'orientations sexuelles différentes. Bref, tous les habitants représentent finalement un pays qui s'unit, qui s'organise contre une menace d'extermination, hein, et finalement, à la fin, semble subsister une forme de fraternité à la suite de tout ce sang qui a coulé, et ça donne un peu d'espoir. Il reste donc seulement le Joker, beaucoup plus noir, beaucoup plus punk aussi, qui laisse entrevoir la révolte, mais pas de futur. Juste l'espoir de faire passer un very bad trip aux gouvernants qui sont aujourd'hui si loin des peuples. Voilà pour moi.
Très bien. Ah, avec la petite, le petit clash de fin, très bien. Très cool. Putain, ça m'a trop donné envie de voir les films.
Ouais, carrément. Ouais, ouais. Même spoilé.
Clairement. Ça a l'air génial. Et moi, ce que je trouve ouf dans ces réflexions, c'est qu'on fait le rapport justement en termes de population. Forcément, ces populations dominantes en termes de pouvoir, elles sont bien moindres. Enfin, il y a beaucoup moins de personnes que les personnes opprimées. Tu dis effectivement, une révolution peut fonctionner. Par contre, ça va être un carnage parce que une révolution violente, c'est forcément les opprimés qui vont gagner. Enfin, en termes de nombre, ça ne fait pas un pli. Et voilà, on sait que ça peut avoir un résultat. Par contre, à quel prix ? Et je trouve ça intéressant et effrayant. Donc, personnellement, je vous encourage à faire attention à vous, dans tous les cas. Je ne vous encouragerai pas à quoi que ce soit d'autre, entendons-nous bien. Mais non, trop trop bien la réflexion, et j'ai très très envie de voir les films, ça a l'air trop cool.
Bah merci.
Et du coup, petite précision, j'ai vérifié, les CRS ne sont effectivement pas des militaires.
Fais attention à ce que tu dis, Elias.
Les gendarmes, oui, apparemment, et pas les CRS, donc autant pour moi.
D'accord. Okay. Très bien. Ouais, du coup, pourquoi
j'ai l'impression que tu... Si vous voyez Hicham, il a le micro à la main.
Je dirais Jean-Luc Reichmann.
J'ai l'impression qu'il va faire la pub dans un supermarché. Alors, les Babybel à 2,50, pardon.
Je t'emmerde.
Mais pourquoi tu fais ça, Jack ?
Alors, pourquoi, bon Dieu ?
Pourquoi, quoi ?
Ben pourquoi t'as fait ça, quoi ?
Pourquoi tu dis ça ?
Pourquoi ?
Pourquoi faire ?
Pourquoi être si pompu ?
Vous savez très bien pourquoi !
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il y a bam 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 et tac tac tac.
Alors, pourquoi ? Alors, avant de commencer le pourquoi, une petite question. Quel est le point commun entre Gavrilo Principe, Ravaillac, Kenji Girac, Brutus et Mark David Chapman ?
Ils ont assassiné des gens.
Kenji Girac ?
Kenji Girac, ouais, il a assassiné nos tympans.
Ah, j'avoue.
Parce que sinon, ça marche avec tous.
Mais bravo, Gavrilo Principe a assassiné François Ferdinand, qui a déclenché la Première Guerre mondiale, Ravaillac, Henri IV, Brutus, César. Ouais. Mark David Chapman, John Lennon et Kenji Girac a assassiné les chansons de Charles Aznavour.
Ah bah voilà.
Bravo.
Tu connaissais déjà l'humour de Hicham. Très bien.
Et à propos de chansons, sur votre jingle, vous pourriez mettre quand même Sandy Valentino. Sur
Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi.
Je vous fais des propositions. Hein,
oui, très bien. On en discutait avec Camille pour le changer.
On va les noter. On verra plus tard.
Inch'Allah. Et bah donc voilà. Donc je vais vous parler du mot assassin. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que vous avez une...
Oh, oui, la secte.
Eh ben bravo, bah voilà.
Eh ben c'est fini.
Oui. Bah donc du coup ça vient de l'arabe. Donc il y a deux versions quand même.
La langue arabe, hein, je vous vois tout de suite les racistes. Calmez-vous. Hein,
je te raconterai un truc plus tard.
j'ai tellement hâte. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu quelques histoires racistes autour de 10 chouchous dans le passé, mais on en discutera autour d'une bière.
Donc la première version, c'est que ça vient de Hashashin, donc qui lui-même vient du mot hashish. Donc le mot vient d'une communauté chiite du 11e siècle, donc la secte des Nizarites.
Ouais. Sachant que secte, c'est pas du tout le même sens au terme religieux.
Il n'y a pas le côté.
C'est les Ismaéliens de Syrie qui, avec le temps, a disparu, qui s'est transformé un peu en soufisme. Bref, c'est des sortes de mercenaires qui étaient envoyés pour tuer des ennemis, principalement des infidèles, entre guillemets.
enfin non, pas entre guillemets, pour
non, eux, c'était, des infidèles. C'était des infidèles.
Ouais, pour eux, ouais. Et pour contrer le stress, bah, ils bédavent. Pour passer à l'acte, et du coup, bah, ils fument du hashish, et donc c'était des hashishines. Oh, et c'est devenu hashishin assassino. Donc c'est d'abord transformé en italien, puis après passé en français assassin.
Et d'ailleurs, il y a un super livre qui raconte ça qui s'appelle Alamut, qui est un livre d'un écrivain russe, je crois, qui s'appelle Vladimir Bartol, et en fait qui explique bah, comment est-ce qu'on leur faisait croire qu'ils allaient aller au paradis en fait une fois qu'ils auraient fait le djihad, hein, et en fait comment on les droguait en les amenant dans des endroits merveilleux où il y avait soi-disant les vierges, mais en fait ils étaient juste drogués et ils pensent qu'ils voient le paradis et que le chef de la secte a ce pouvoir de les amener au paradis, et donc ensuite ils vont tuer en leur nom. Ce livre est génial, hein,
enfin, le mec il devait caresser une vieille chèvre, cool. En fait il planait de ouf. Ah, diquette, mais comment ça, mais...
Pardon, vas-y. Sinon, du coup, il y a la deuxième version que j'ai trouvée. Assassin viendrait du mot assas, donc rien à voir avec l'université, hein, mais plutôt du mot arabe qui veut dire la base, la source, les principes, les fondements, donc asal ou asoul. Et du coup, cette fois, les assassiyoun, c'est des fous, enfin des fondamentalistes religieux, qui s'autoproclament comme les vrais croyants et qui sont prêts à défendre leur foi en attaquant toute personne qui n'y croit pas, même jusqu'à la mort.
Ok,
ouf. Voilà, et ce sont les deux versions que j'ai trouvées.
Très bien. Sachant que ça fait un peu cliché, mais il me semble que dans le premier Assassin's Creed, ça parle beaucoup de cette origine.
Ah ouais.
Des Assassin's Creed.
Ouais, je m'en rappelle plus.
Alors ça commence à dater un petit peu, mais c'est ce.
On est plus tout jeune, Elias.
Ouais, non, ce terme était revenu à la mode pour ça. En tout cas, l'explication était revenue à la mode pour ça. Et ça m'a, enfin, ton explication m'a fait penser à un truc aussi. C'était qu'il me semble que chez les, putain, c'était les sunnites ou les, merde. Non, là, c'est chez les soufis. Il y avait un courant soufi extrémiste. Alors que, sachant que les soufis de base sont censés être plutôt sages, éclairés, etc. Il y avait un courant qui prenait, enfin, où il y avait des personnes qui voulaient se montrer tellement exemplaires que d'un point de vue extérieur, se comportait le plus mal possible. C'est-à-dire que en société, elles pouvaient boire, insulter tout le monde, etc. Mais c'était une façon de faire leur pendant avec leur temple intérieur, etc. Enfin, un oxymore un peu chelou, mais voilà, c'était un sous-groupe du soufisme, et que je trouve assez ouf, parce que autant je suis super curieux et impressionné de ce côté, genre, en fait, je suis tellement pur à l'intérieur que je suis un gros dégueulasse à l'extérieur. Et à un moment, je me dis, bon, il y a bien au moins une poignée de mecs qui devaient être des gros bâtards, en mode, non, je suis pas du tout pur à l'intérieur, mais ça me fait plutôt kiffer d'être un bâtard à l'extérieur.
Il y a moyen.
Ouais, je crois. Mais ouais, trop cool. Sujet très très chouette. Et puis.
J'ai eu peur quand j'ai posé la question que déjà toi tu réponds à ma question d'un coup. toi tu connais Hashishin. Bon, bah voilà.
Mais non, mais
non, c'était bien. Moi je connaissais pas.
Ah bah parfait. Ouais, merci.
Tu nous as fait réagir. C'était le but, voilà.
Très bien.
Très cool. Bah merci beaucoup.
On et
sur
le jeu.
Sur ce, il me semble que ça va être le sujet de ça.
Alors les femmes!
Les femmes? Quoi les femmes?
Donnez-nous les femmes!
Divorce, beheaded and died. Divorce, beheaded, survived. I'm Henry VIII, I had six sorry wives. Some might say I ruined their lives.
Et oui, je vais vous parler d'Henri VIII et de ses six femmes, ou plutôt des six femmes d'Henri VIII, parce que c'est à elles que je veux vraiment m'intéresser. Et dans le petit jingle, il y a un moyen mnémotechnique, hein, pour se souvenir de ce qui arrivait à ces six femmes. Divorced, beheaded, dead. Et divorced, beheaded, survived. Sauf que c'est pas vraiment divorcé, c'est plutôt mariage annulé.
Si, ah oui.
Pour être tout à fait exact.
Ce qui est pire presque même.
Ce alors, qui est plutôt pire.
Pour la nana.
Peut-être, mais par rapport à la suivante, ça va.
Oui. Elle s'en sort plutôt pas mal.
Parce que pour les non-anglophones, beheaded, c'est-à-dire étété.
Tout à fait, c'est exactement ça. Enfin, donc, en tout cas, c'est une histoire qui, depuis très longtemps, et Marlène le sait, me fascine complètement, et qui a autant sa place dans les manuels scolaires que dans un gala ou un point de vue de nos jours. Ça mêle la politique, la religion, l'amour, les bébés, la haine, la jalousie. C'est absolument génial, cette histoire.
C'est ultra trop cool.
Ça, elle est super excitée, là, c'est genre le sujet.
Henri VIII d'Angleterre et ses six femmes. En 10 minutes.
Dire un titre de BFM.
Henri VIII. Donc, en 10 minutes, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter. Je vais pas pouvoir rentrer dans les détails.
Des robes, notamment.
Non, surtout, je vais pas vous raconter toutes les intrigues politico-religieuses qui vont entourer la vie et la mort de ces six femmes. C'est très intéressant, mais j'ai pas le temps. Moi, je me restais ultra people. Voilà, c'est ça qui est cool, c'est ça qui nous intéresse ce soir. Sachant, voilà, 10 minutes, c'est court quand on sait qu'à la télévision, il a fallu 4 saisons, 38 épisodes
les Tudors,
52 minutes à la série The Tudors.
Attends, mais comment t'arrives à voir le rêve comme ça?
Pour nous raconter.
De quoi, mais non, mais cette série, mais attends, mais les Tudors,
oui,
quoi.
Oui, Elias, quand même.
Mais tu me fais peur.
Ben non, mais c'est la série sur Henri VIII et ses six femmes.
Exactement. Exactement.
Elle a juste donné le nombre d'épisodes et tu fais, bon, les Tudors, écoute.
Bah, c'est la seule série.
Je me suis douté que c'était pas les Borgia de Canal+, quoi, par excuse-moi.
Et même que l'acteur qui joue Henri VIII, il est hyper sexy.
Alors,
de ouf.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est Jonathan Rhys-Meyer. Voilà. Je vous invite à regarder des portraits d'Henri VIII, surtout en fin de vie,
il ressemble pas du tout à ça.
Voilà, il faisait à peu près 130 kilos, donc il était un tout petit peu moins sexy. Je crois que ce qui m'a particulièrement, touchée sur cette histoire, c'est que je crois que c'est la première histoire où j'ai compris la place qu'on a réservée aux femmes pendant très longtemps dans l'histoire. Pas morte, mais vraiment un peu des objets qui permettent de faire des alliances politiques, qui permettent de faire des bébés, qui permettent de faire des héritiers. Et ça m'a.
Ou pas,
c'est dommage d'ailleurs pour elles souvent quand elles le font pas.
Absolument.
Et voilà, je voulais leur redonner un peu leur lettre de noblesse parce que malgré ça, c'est des femmes, les femmes d'Henri VIII qui vont se débattre aussi pour trouver leur place, s'imposer. Elles vont pas toujours réussir, mais bon. Et donc, pour placer un tout petit peu le contexte, on se situe à la fin du 15e siècle, première moitié, on va dire, du 16e. C'est donc la Renaissance. Henri VIII, c'est le roi d'Angleterre. Et en face, par exemple, juste pour donner un contexte historique, c'est François Ier qui sera globalement le roi de France en face. Henri VIII, il va naître en juin 1491. Et quand il naît, il n'est pas destiné à être roi parce qu'il a un grand frère, Arthur, qui va épouser Catherine d'Aragon assez rapidement. Ça fait une alliance entre l'Angleterre et l'Espagne en 1501. Mais il meurt quelques semaines après son mariage. Et donc, à la mort de son père en 1509...
Son frère, tu veux ?
Non. Son père est encore roi à l'époque. Et donc, quand le père meurt...
C'est lui qui devient roi.
Il accède au trône. Il faut lui trouver une femme. Et donc, c'est l'heure de la femme numéro 1.
Magnifique. Quels effets spéciaux.
Et donc, Henri, il va pas chercher très loin pour se trouver une femme. Il se dit, la petite Catherine d'Arago qui était mariée avec mon frère, elle était pas mal.
Ça maintient l'alliance avec l'Espagne, en plus.
C'était surtout pour ça, d'ailleurs.
C'est tout bénef.
Alors bon, ça passe pas très bien parce que normalement, dans les lois canoniques, tu n'es pas censé épouser ta belle-sœur. Mais bon, on dit un peu, le mariage, il avait pas trop été consommé, donc on va quand même pouvoir y aller.
Après tout, t'as le droit d'épouser ta cousine, donc bon...
Oui, tout à fait. Il y a des choses pas toujours très compréhensibles dans ces lois, mais bon. Catherine, en deux mots, elle a 6 ans de plus que lui, elle est très dévote, et c'est clairement plus un mariage de raison que de passion et que d'amour. Et leur mariage va pas être très heureux, il va quand même durer 24 ans.
Ah oui,
24 ans. Et quand
c'est bonne longévité quand même.
Je vais vous donner le temps de mariage des autres.
C'est express les autres. Ouais.
Beaucoup plus express. Hein. Il perdra moins de temps avec les autres. C'est assez triste parce que durant leur union, Catherine, elle sera enceinte 7 fois, mais elle a qu'une seule petite fille en fait qui va survivre.
Ah, c'est trop dur.
Soit elle fait des fausses couches, soit c'est des bébés qui naissent déjà morts ou qui meurent très très tôt. C'est une petite fille qui s'appelle Marie, qui naît en février 1516, la future Bloody Mary. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler.
Charmante femme.
Tabasco, tout ça.
Cocktail, ouais, voilà. La sauce pour sortir.
Pendant ce temps, Henri, il a de petites aventures extra-conjugales. Faut pas déconner, il est roi, il va pas quand même se contenter d'une seule femme.
Classe.
Et dans les années 20, donc assez tôt avant son mariage qui aura lieu quasiment 10 ans plus tard, il va tomber follement amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Anne Boleyn. Et Anne Boleyn, contrairement à plein d'autres, elle se refuse à lui. Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'elle était pleine de vertu. Il y en a d'autres qui disent que c'était pour faire monter le feu de la passion et elle était maligne. Et voilà, exactement. Mmh. Bon, on n'a pas vraiment la réponse là-dessus. Et puis, bon, Henri, ça fait quand même un moment qu'il en a un peu marre de Catherine. Elle lui donne pas d'héritier mâle, ce qui est un vrai problème. Et donc, son amour pour Anne, parce qu'il tombe vraiment très amoureux de cette femme, il va lui donner la force de se dire « Allez, c'est parti, il faut que je me sépare de Catherine ». Alors au début, il dit « Bon, tu veux pas, tu te retires dans un couvent, comme ça, on est bien, fini le mariage ». Catherine, elle, elle va toujours être très droite. Elle va dire non, non, moi, c'est moi ta femme, c'est moi ta femme légitime, je reste. Il va aller voir le pape Clément VII, il va lui dire peut-être qu'on pourrait annuler le mariage parce que je pense qu'elle a quand même couché avec mon frère à l'époque.
Je trouve ça génial. Quoi. Ça, c'est... Le mec, il lance tout, il a tellement envie de consommer son autre mariage que.
Bon, il l'a consommé. Hein, oui, oui. Le...
Mais il a fait ça au bout de combien de temps? Au bout de 24 ans, vraiment?
Ouais.
Ouais.
Donc, oui, au bout de 24 ans, il intente un procès à son épouse parce qu'elle aurait consommé.
Mais j'ai l'impression que le mec a voulu faire jouer la garantie au bout de 24 ans. Genre,
ah, bah non, c'est.
Mais c'est exactement ça, comme elle lui a pas donné de fils, c'est tout à fait ça.
Oh là là, putain.
Et bon, Clément VII dit non, non, ça va pas marcher. En plus, le neveu de Catherine, c'est Charles Quint, c'est quand même quelqu'un d'un peu important en Europe, donc on va pas trop énerver les gens. Donc Henri VIII, il va monter un grand tribunal ecclésiastique. Dans ce tribunal, il y a des représentants du Vatican qui viennent pour se prononcer sur la validité du mariage. Ça fonctionne pas. Catherine, elle se jette à ses pieds. Ça, apparemment, c'est, enfin voilà, c'est une scène où elle se jette à ses pieds pour lui dire il ne s'est jamais rien passé avec ton frère, j'étais vierge au mariage, très désespérée. Mais malgré tout ça, Henri, lui, il va discrètement se débarrasser un peu de Catherine. Il va faire annuler le mariage finalement avec un tribunal spécial pour pouvoir passer à la femme numéro 2.
Non, mais c'est surtout qu'en plus...
Le jingle, Marlène.
Bah pardon, oui, j'avais oublié la femme numéro 2, j'ai tout gâché. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il va faire un schisme avec l'Église catholique à ce moment-là, puisqu'en fait, comme le pape ne veut pas prononcer le divorce, il dit bon, bah d'accord, dans ce cas-là, je fonde mon Église, et c'est comme ça qu'est né l'anglicanisme, et que la reine d'Angleterre, par exemple, est encore chef de l'Église anglaise. Donc c'est, voilà, c'est quand même un schisme religieux pour une histoire de mariage. C'est ça, de divorce.
Je vais dire pour pouvoir niquer, mais après, chacun sa vision.
Alors, tout à fait, Marlène, tu m'as ôté les mots de la bouche, et donc Henri et Anne vont finalement pouvoir se marier. Très peu de temps plus tard, hein, elle va donner naissance à une petite fille en septembre 1533. Elle s'appelle Élisabeth. Élisabeth I, l'une des plus grandes reines quand même d'Angleterre. Mm-hmm. Alors, quelques mots peut-être sur Anne Boleyn. Alors, moi, je ne vous cache pas, j'aime beaucoup Anne Boleyn. Hein. J'ai une petite passion Anne Boleyn. Dans The Tudors, elle est jouée par Nathalie Dormer, qui peut-être que vous la connaissez, c'est Marjorie dans Game of Thrones.
Ah ouais.
Voilà. Et dans un autre film, elle est jouée par Natalie Portman. Donc voilà, elle est jouée par des actrices en plus que j'aime bien. Elle est très cultivée. Elle est catholique, mais elle s'intéresse quand même aux idées des réformateurs protestants. Elle est assez ouverte. Elle a une beauté peu traditionnelle puisqu'elle a une peau foncée, alors qu'on est plutôt à la mode des beautés pâles.
Ah, surtout en Angleterre,
oui. Et oui, elle a des cheveux noirs. Ça lui donne une petite aura exotique. On ne la décrit pas comme magnifiquement belle, mais elle a quelque chose, elle attire le regard. Et elle aime aussi la fête, le faste, la mode. Elle lance la mode française en Angleterre parce qu'elle a grandi en France. Et en fait, ben, très vite après la passion, c'est la désillusion. Et oui, faites attention à la passion. Anne est très indépendante, elle est très vive d'esprit. Et ça, c'est toujours un peu chiant pour un homme.
Hein, je ne cautionne pas ce que tu dis, ça. Je ne suis pas d'accord.
Je sens que ça va mal finir pour Anne.
Et surtout, elle n'est pas capable de lui donner un fils. Et ça, c'est bien.
Oh là là,
le
mais elle manquait
problème.
Tous ses devoirs.
Elle fait aucun effort aussi. Boulot. Hein. Ouais, un seul putain de boulot.
Elle compliqué. Se fait pas mal d'ennemis aussi à la cour. Hein. C'est toujours un problème. Et en janvier 1536, Catherine d'Aragon, donc la première femme, va mourir. Et Anne fait une petite fête pour l'occasion parce que quand même, faut pas déconner.
Quelle horreur.
Et en plus de ça, elle touche bien son ventre pour signifier à tout le monde « Je suis enceinte ». Si elle a un fils, elle sauve sa peau. Malheureusement, elle fait une fausse couche. Oui. Et à ce moment-là, le roi a déjà jeté son dévolu sur une dame de compagnie d'Anne Boleyn qui s'appelle Jeanne Seymour. Pas Jeanne Seymour, hein, docteur qu'une femme médecin, ce n'est pas la même. Et donc, en gros, il va vouloir se débarrasser d'elle. Il a un certain nombre de personnes à la cour qui veulent aussi se débarrasser d'elle. Et donc, entre le 30 avril et le 2 mai 1536, excusez-moi, 5 hommes, dont le propre frère d'Anne Boleyn, vont être arrêtés pour adultère et inceste.
Voilà. Ah, c'est bien sale.
Ils vont être condamnés malgré la faiblesse des preuves. On va aussi accuser Anne, en plus de cet adultère et de cet inceste, d'avoir empoisonné Catherine d'Aragon.
Mais non.
Et oui. Et elle va être décapitée le 17 mai 1536. Elle a alors 36 ans. Et nous allons donc pouvoir, après 3 ans de mariage, passer à la femme numéro 3.
J'ai vraiment l'impression qu'on joue à Mario Party.
Finalement, Catherine d'Aragon, elle s'en est bien tirée. Hein.
Catherine d'Aragon s'en est très bien tirée.
Elle était dans sa petite maison de retraite de Rennes.
Alors, Henri VIII, bien sûr, est très triste de cette mort, puisqu'il va se fiancer avec Jeanne Seymour le lendemain de la mort d'Anne, en toute classe. Et il va l'épouser 10 jours plus tard. Alors, Jeanne Seymour, elle a eu une moins bonne éducation que les deux premières femmes. Elle est moins cultivée. Elle est pâle et blonde, contrairement à Anne, qui était très brune.
Mais elle est... tu disais que c'était une dame de compagnie. Elle est quand même noble.
Elle est quand même noble, mais elle n'a pas reçu la même éducation que les deux autres. Elle sait écrire son nom et son prénom, mais c'est à peu près tout.
Noble de ouf.
mais elle vient quand même d'une famille noble, je crois. Je revérifierai pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Et elle est beaucoup plus stricte, beaucoup plus formelle, beaucoup plus austère que Anne, qui aimait les grands, la fête, un peu, tu vois, la Marie-Antoinette,
la on pourrait vie, dire. Quoi.
Est-ce qu'elle
la
donnait des garçons? C'est ça qu'on veut savoir.
Eh bien, le 12 octobre 1537, un peu plus d'un an après son mariage, elle va donner naissance à un fils.
Édouard.
Mais l'accouchement est très difficile et elle va mourir des suites de l'accouchement. C'est quand même très triste. Le roi est très affecté. Il va porter le deuil pendant 3 mois. Alors que quand même pas mal. Attends. Et à la fin de sa vie, il va demander à être inhumé avec elle.
Quand tu dis il est en deuil pendant 3 mois, ça veut dire qu'il a trouvé quelqu'un au bout de 3 mois ou il était juste en dépression pendant 3 mois?
C'était juste la dépression.
Ouais, il a fait une dépression 3 mois. Okay. Voilà.
Non, là, il va quand même se passer 3 ans quasiment de célibat. Okay. Le roi va profiter aussi profiter de la mort. Il va écarter définitivement Marie-Élisabeth de l'ordre de succession dans un premier temps. Et met Édouard, donc le fils de Jeanne Seymour, à la première place pour être sûr qu'il devienne roi.
Ce délire de... je trouve ça ouf, pardon, mais genre... Il faut absolument que ce soit un mec, sinon ça va pas se faire. Putain, mais c'est quoi ton problème?
Et encore, l'Angleterre sont un peu moins graves que les Français, puisqu'ils ont laissé des femmes monter sur le trône.
Nous, on a été les pires là-dessus, les Français.
Ouais. Je crois.
Sur plein d'autres choses aussi.
Et donc, quand même, après quelques années, il faut passer à la femme numéro 4. Alors, cette fois-ci, après les coups de foudre Anne Boleyn et Jeanne Seymour, on va proposer à Henri d'épouser Anne de Clèves, qui est la sœur du duc de Clèves, qui serait globalement un bon allié en cas d'une attaque catholique contre l'Angleterre, parce que bon, il y a quand même des petits enjeux politiques autour de tout ça. Alors, le roi dit pourquoi pas, il demande un portrait. Un portrait, il dit, elle est pas mal, la petite Anne.
J'avoue qu'à l'époque, c'était chouette, t'as une photo. Attends, je te fais un tableau.
Eh ben oui, bien sûr.
Tu peux dessiner ce que tu veux.
Et en fait, quand elle arrive, il est assez déçu, ce qui est un peu dur. Bon, il va quand même l'épouser au début de l'année 1540.
Tant qu'on est là.
Allez. Mais au bout de 6 mois, finalement, tout est annulé. Elle accepte aussi. Il est content qu'elle ait accepté parce qu'il lui file un peu des châteaux,
elle
etc.
Elle n'a pas bataillé, non.
Non.
Très bien. Elle a bien fait, je pense.
Elle a vu comment finit la deuxième.
Oui, j'avoue.
Pas chaud.
Oui, j'avoue.
Donc voilà. Mais sachez que Henri, ce petit malin, il a repéré une de ses dames de compagnie va bientôt être la femme numéro 5. Elle s'appelle Catherine Howard. Elle est très jeune, elle est très séduisante, elle a une vingtaine d'années.
Ah, ça va.
Elle est de 30 ans, sa cadette. Voilà, bravo Henri. Et elle apporte beaucoup de joie à Henri, qui a presque déjà 50 ans. Il l'épouse en juillet 1540. Il est très content. Elle lui apporte beaucoup de bonheur.
Ah, j'ai des images qui viennent. Pas classe.
Mais bon, Elisabeth, elle a un comportement pas tout à fait approprié parce que autant Henri, s'il veut avoir des maîtresses, il peut. Mais elle va avoir une aventure avec le courtisan Thomas Culpepper.
Elle s'en fait les couilles.
Ça, c'est pas très, très, très bien. Et elle va même employer comme secrétaire son ancien fiancé informel, Francis Dereham.
Bien joué.
Elle est maline. Donc, globalement, elle a pris un peu trop la confiance parce que la rumeur court et le roi demande une enquête. Clairement, s'il y a eu fiançailles avec un autre homme avant, rapport, il faut annuler tout simplement le mariage. Elle jure qu'elle a été violée par Dereham, qu'elle est parfaitement...
Par son ancien fiancé.
La tournure de phrase était...
Et donc finalement, Culpepper et Dereham, c'est parce que j'ai pas prononcé avec l'accent, c'est pour ça.
Ouais, mais même avec l'accent, je crois que ça m'aurait perturbé, mais pardon, vas-y.
Et ils vont tous les deux finir par avouer. Ils vont être globalement... Alors, Culpepper, je crois qu'il est juste décapité. Et Dereham, il est pendu, éviscéré, démembré.
Ah ouais.
Toujours des petits
dans
trucs...
Dans cet ordre-là.
Alors, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça assez nul dans cet ordre.
Si tu démembres et que tu pends après, Il y a moins de choses qui pendent, peut-être.
Oh. Ou il y a plus de cordes. Ouais.
Et ouais. Non, mais j'aurais éventré avant. Fin...
Ah, pour qu'il y ait des... Oh,
ouais, je sais pas.
Faut qu'on parle, Camille.
Et après un an et demi de mariage, Catherine subit le même sort qu'Anne Boleyn. Elle est décapitée le 13 février 1542, environ 22 ans, pour adultère. Mmh. Et enfin, nous allons arriver à l'ultime et dernière, la femme 6.
Qui a gagné un niveau apparemment.
Qui est celle qui va le mieux s'en sortir. Il épouse Catherine Parr en juillet 1543.
Il a un goût prononcé pour les Catherine, en tout cas.
Tout à fait, c'est tout à fait exact.
Il avait la cinquantaine d'années déjà, c'est ça?
Ah oui, lui, ouais. il a bien la cinquantaine. C'est une riche veuve, c'est une réformatrice convaincue. Elle est aussi assez cultivée, elle va beaucoup débattre avec le roi. Elle va le réconcilier avec ses filles, qui sont donc...
Ah, parce qu'il est fâché avec ses filles.
Alors, il n'est pas fâché, mais je rappelle qu'il les a écartées de l'ordre de succession et il va les remettre...
C'est peut-être elles qui sont fâchées, pour le coup.
Oui, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Il va les remettre dans l'ordre de succession après Édouard, mais elles reviennent, donc Marie, la fille de Catherine d'Aragon, et Élisabeth, la fille d'Anne Boleyn. Henri, lui, est devenu obèse. Il souffre sans doute de la goutte et présente de nombreux furoncles très douloureux.
Oh, mon Dieu.
C'est-à-dire qu'encore une fois, je vous invite à regarder Jonathan Rhys-Meyer dans les Tudors et à baver devant sa sexiness. Et je pense que ce n'était pas comme ça. Et il va mourir le 28 janvier 1547 à l'âge de 55 ans. Et Catherine Parr va lui survivre. Bravo.
Bien joué, Catherine.
Bravo,
Catoche. Ouais.
Alors, en quelques mots quand même, parce que vous pouvez aller me dire, je le sais, vous voulez tout savoir. Et après, Édouard va devenir Édouard VI, c'est lui qui monte sur le trône à la mort de Henry, mais il meurt à 15 ans.
Et oui.
Bloody Mary va devenir reine.
Il meurt de quoi, excuse-moi?
Alors, je t'invite à aller te renseigner.
Je me dis, après...
Il meurt, après, je pense, de maladie.
De maladie. Okay, je ne saurais plus dire laquelle, mais il était super chétif.
Oui, c'était un enfant. Ouais. Exactement, c'était
un super héros plutôt moyen. Non, parce que je me dis, à la place des meufs, quand tu t'es fait écarter de la liste de succession et ramener, oh putain, le petit frère...
On va se le faire.
Il va s'en manger une directe.
Non, mais il meurt de maladie. Okay. Bloody Mary va devenir reine. Elle aussi, elle va mourir assez rapidement sans enfant. Et c'est Élisabeth I qui va monter sur le trône en 1558. Elle va régner jusqu'à 1603, donc la fille de Anne Boleyn. À sa mort, ça va être la fin de la dynastie Tudor, qui va être remplacée par la dynastie Stuart. Mais si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, je vous invite à écouter, c'est un hasard total, mais le dernier épisode de Culture 2000 qui parle de Mary Stuart. Mary Stuart, qui était, on va dire, la cousine d'Élisabeth I. C'était la petite fille, c'était la alors attendez, je l'ai plus, Marlène, c'est toi qui...
En
voilà.
Gros, c'est la son enfin Henri
8 avait
Henri 8 c'est son grand-oncle.
Ouais, c'est ça.
C'est le la petite le fille frère de son grand-père, voilà. Et donc c'était la concurrente d'Élisabeth au trône d'Angleterre.
Et pour finir quand même sur une petite note ciné pour en honneur de 2 heures de perdu, je vous invite à regarder des films ou des séries autour de cette histoire que j'adore. 2 heures pour un roi de Justin Chadwick avec Natalie Portman et Scarlett Johansson. La série The Tudor sur Elizabeth et Elizabeth l'âge d'or avec Kate Blanchett qui raconte le règne d'Elizabeth I et Mary Stuart, reine d'Écosse, qui est sortie récemment avec Saoirse Ronan et Margot Robbie. Voilà, bon, je vous assure, ces films ne sont pas parfaitement historiquement exacts, mais
le dernier est vraiment excellent. J'ai été surprise en bien quand je l'ai vu.
Mais ça permet d'avoir une petite idée de tout ça. Voilà, ce sera tout.
Merci.
Merci, trop bien.
Cool.
Ah, l'histoire est ouf. Mm. Et ça marche bien, le côté Jet Set Gala. Mais ouais, comme quoi, c'est la deuxième. Si je dis pas de bêtises, elle a pas eu beaucoup de chance, mais elle a donné une héritière au trône.
Anne Boleyn. Elle a donné naissance à l'une des plus grandes reines d'Angleterre.
Et c'est la plus connue, je pense, des 6 épouses dans les 8 ans. C'est vraiment... Ouais,
le nom me disait quelque chose.
C'est ma préférée.
Enfin, non, le nom me disait quelque chose. Après, c'est qui ma voisine, je sais pas.
Mais très très cool en tout cas, merci. Et puis ouais, si tu peux nous envoyer les liens des films, etc., on les partagera avec grand plaisir. Et l'épisode bien sûr de Culture 2000, mais que vous avez très certainement déjà écouté, mais bon, on les repartagera quand même. Sur ce, c'est Camille qui va fermer la marche.
Absolument.
Au fait, je te signale que tu as une tache sur le nez. Tu le savais?
C'est un point noir.
C'est riche, non?
Ah, c'est riche, oui. C'est riche.
Non, c'est un signe.
Je suis une mouche posée sur sa bouche.
Donc en effet, je vais vous parler de la mouche, mais pas la mouche l'animal, la mouche l'accessoire de mode.
Oh, on s'y attendait pas tout à l'heure,
mais c'est incroyable. Voilà, donc cet accessoire de mode, mais qui n'est plus vraiment, en tout cas, plus trop d'actualité.
Dommage.
J'en croise rarement.
Regret.
Oui, tout à fait.
Tristesse.
Donc alors, quand j'ai écrit ce sujet, je me suis dit, ok, on va commencer par les bases, on va se pencher sur la définition du Larousse. Qu'est-ce que la mouche ? Donc je suis tombée, déjà, première ligne, forcément l'animal. Donc j'ai dit, plutôt, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, je suis tombée sur petite touffe de poils au-dessous de la lèvre inférieure. Donc là, j'en ai déduit qu'il s'agissait de la description de la micro-barbe d'Hicham.
Ok, donc maintenant, on commence à faire des attaques physiques.
C'est exactement ça.
Non,
auditeur, okay. Auditrice, alors, vous saurez qu'en fait...
Il coupait le micro de Camille. Voilà.
Merci. Ah, j'adore ta chronique.
Mais non, mais en fait, ça s'appelle vraiment une mouche ce que tu as là et je ne le savais pas.
Ok, très
tu
bien.
Tu savais
toi moi non plus.
Eh ben voilà, mais on le sait tous.
Je croyais que c'était un berbe, je vous en merde.
Quoi, je crois qu'il y a un tacle non réglementaire au cervical.
Moi, je crois que ça s'appelait une barbichette.
Oui, oui. Bah, pareil, moi, un micro-bouc. Mais non, ça s'appelle
ou
une mouche.
Du swag ou je sais pas.
Donc bref, du coup, j'ai poursuivi ma lecture et j'ai trouvé ça, petit morceau de taffetas noir que les dames des 17e et 18e siècles se mettaient sur le visage. Donc en effet, une mouche, c'est ça, c'est un faux grain de beauté qu'on plaçait le plus souvent sur le visage, le décolleté ou les avant-bras. Alors je me suis dit, ça vient d'où cette idée de se coller du velours sur la gueule quand même ? Eh bien, comme bien souvent, ça a une origine mythologique, étant donné que la déesse Vénus... était en train de faire une sieste au calme, au bord d'une rivière, c'est voilà, comme 90% de son temps d'occupation, je pense. Et il y a des mouches qui arrivent et qui se posent sur son visage. Donc elle est très agacée parce que c'est agaçant. Et donc voilà, elle va pour les enlever. Et il y a un autre dieu de l'Olympe qui lui dit: ah, mais non, Vénus, pourquoi tu les enlèves? Ça te va si bien, ces petites taches noires sur ton visage et tout. Chasse pas les mouches. Et elle s'est regardée dans l'eau, elle a fait: en effet, c'est stylé.
C'est
un peu bizarre.
En gros, le mec, c'était juste un dragueur trop lourd, genre: mais non, mais ça te va trop bien.
Exactement. Et donc, du coup, les dames de la cour de Louis XIV, toujours férues d'anecdotes sur les dieux et déesses grecs, eh bien, ont décidé de copier Vénus et de faire exactement la même chose.
J'adore.
Donc, au XVIIe et au XVIIIe siècle, toute personne riche se devait d'avoir le teint le plus blanc possible afin de prouver qu'il ne travaillait pas en extérieur.
Ah, oui.
Voilà.
Il y a des époques qui me débectent. Hein.
Et d'avoir, par contre, les pommettes bien, bien rouges. Ce qui fait qu'en fait, on était un petit peu Bozo le clown, quoi. On était super blanc et des deux gros cercles rouges bon, sur...
Je ne suis pas bronzé, mais j'ai bon teint.
Voilà, exactement, cool. Voilà. Donc, on se fardait, enfin, on se plâtrait. Hein. Le visage avec du blanc de céruse. Donc, ça, déjà, on est sur un... Enfin, c'est du... Le blanc de céruse, c'est... Je sais plus ce que... C'est du... Non, c'est pas du plomb. Mais enfin, c'est quelque chose comme ça.
Ouais, des métaux.
Ah, c'est bien,
quoi.
C'est pas toxique. Ouais.
Non, c'est que quelque chose de vachement sympa. Et donc, on déposait, de la joue, enfin, du rouge, pardon, sur les joues. Mais c'est pas encore assez marqué qu'il est bien pâle, le visage.
Si je dis pas de bêtises, les hommes comme les femmes, pour le teint blanc.
Alors, pas tous les hommes, mais des hommes très coquets pouvaient être amenés à le faire, oui. Mais pas tous les hommes. Alors que chez les femmes riches, c'est quasiment la totalité. Chez les hommes, c'est un peu plus rare, mais il y en a.
Ok, parce que c'est une époque, si je dis pas de bêtises aussi, où... Ah oui, apparemment, je dis beaucoup si je dis pas de bêtises. Mais parce que je ne suis pas toujours sûr de ce que je dis, et que je vous invite à me corriger. Oui, il y a beaucoup de, on va dire, d'apparats et de, on va dire, de mécanique de la mode féminine qui étaient utilisés par les hommes à cette époque-là. Oui. Les collants, les talons...
Absolument. Il y a moins de... Disons que la conception de virilité n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui à cette époque-là. Voilà.
Il y avait au moins quelques trucs qui étaient bien. Pas des masses, hein, mais...
C'est vrai. Et donc, on se dit, voilà, se plâtrer le visage avec du blanc, c'est... On voit pas encore assez que le visage est pâle. Donc, ce qu'il faudrait, c'est quelque chose de sombre sur le visage pour prouver que le visage, il est bien, bien blanc. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, ah ouais, c'est vrai que la mouche Vénus, ça a été pas bête, quoi. On se met des mouches sur le visage et là, c'est carrément stylé. Donc c'est, voilà, c'est un tout petit bout de tissu. Donc c'est du taffetas, de la soie ou du velours noir qu'on conservait dans des petites boîtes qui étaient conçues à cet effet. Donc c'était des boîtes en or, en nacre, etc. qu'on avait toujours avec soi dans son petit sac à main. Comme ça on avait sa petite boîte à mouche. Voilà. Et donc déjà la boîte, elle vous coûtait une sacrée blinde. C'est un accessoire vraiment de riche, hein, la mouche. Donc la boîte, elle vous coûtait déjà une blinde. Et la mouche aussi coûte excessivement cher. Et il y avait des boutiques à Paris qui étaient spécialisées uniquement dans la vente de mouches. Donc on a par exemple une boutique voilà, qui s'appelle à la perle des mouches et donc c'est un objet vraiment précieux qu'on essaie de pas perdre et qui est un indicateur social en fait.
Ok, ouais, si tu peux te permettre d'avoir une mouche, c'est...
Voilà, TSS, exactement.
Mais moi, je me demandais pourquoi est-ce que c'était un bout de tissu et pas juste elle se dessinait un truc sur la tête.
Il me semble que ça,
aucune c'est, idée. C'est, et surtout, moi, je me demande avec quoi elle le collait.
C'est étonnant, quoi. Ouais.
Ah bah sur le plâtre.
C'est pas l'histoire justement de j'ai une mouche, je suis riche, parce que tout le monde peut faire un point noir sur
la... Ah j'avoue, alors que te mettre du velours,
je pense qu'il y a deux trucs. Je crois que ça se faisait pendant un temps de se faire un petit trait noir, etc. Mais quand tu mets un truc de maquillage, bah souvent ça va être gras parce que tu dois le mettre par dessus de la poudre, donc faut que ce soit gras, donc ça va être brillant, donc du coup tu vas avoir moins de, ça va être moins sombre, et donc c'est pas le velours, ça ne reflète pas du tout, enfin ça reflète très très mal la lumière, et c'est aussi pour ça qu'on l'utilise en bijouterie, diamanterie, etc., pour que les pierres ressortent. C'est censé être un truc ultra mat et sombre et pas refléter la lumière.
C'est fort possible, et c'est un accessoire qui est très à la mode jusqu'à la Révolution française. Enfin, après la Révolution française, il y en aura encore. Mais avant la Révolution française, en fait, elles sont parfois super élaborées, ces mouches. Donc, il y a le cercle dont je vous parle, qui est le plus basique, mais on peut en acheter en forme de lune, d'étoiles, de petits personnages, de cœurs ou de petits animaux. Donc, c'est-à-dire, tu peux te mettre des petits lièvres.
voilà. Sur une patate sur la joue, sur le mouche.
Et parfois, tu peux en faire vraiment des très, très grosses, de plusieurs centimètres de diamètre ou de longueur. Tu peux en faire des ovales. Enfin,
c'est comme le nail art aujourd'hui, quoi.
Ouais. Non, mais voilà, t'as de la moquette Saint-Maclou sur le visage, en gros, quoi. Et tu peux l'entourer de petits strass ou de petits véritables diamants que tu colles tout autour.
C'est très bling bling.
Et moi, ça me rappelle, vous savez, les strass qu'on pouvait se mettre sur le corps quand on était ado, là, les trucs ignobles. Bah, en fait, voilà, c'était exactement ça. Donc, comme je vous l'ai dit, son rôle, c'est de mettre en avant la blancheur du teint, mais ça sert également à cacher l'acné, la rosacée, les boutons de fièvre, les verrues ou tout simplement les cicatrices de MST qui sont très, très, très présentes à cette époque-là.
Ouais, donc c'était signe de richesse, mais pas que, quoi. C'était signe de ch'touille aussi, quoi.
Absolument. Tac, voilà, ch'touille, paf, une mouche. Donc la mouche, elle est codifiée selon l'endroit où on la met sur le visage, elle a un nom. Donc près de l'œil, c'est la passionnée, au coin de la bouche, c'est la baiseuse, sur les lèvres, c'est la coquette, sur le front, c'est la majestueuse, enfin voilà. Donc ça, c'est des noms qui sont pas spécialement évocateurs, c'est uniquement le nom du style de mouche.
C'est vraiment une époque de merde, si faut me permettre. Ils avaient que ça à foutre. Bah, alors là, c'est la coquette.
une des raisons de plus de comprendre la Révolution française, quoi.
Ouais, clairement.
Mais par contre, il y a également un code de lecture de la mouche, comme il y avait un code de l'éventail. Absolument. Comme il y avait un code de l'éventail à la cour à Versailles, la façon dont on portait son éventail voulait dire quelque chose si on le tenait dans la main droite, la main gauche, etc. Eh bien, c'était pareil pour la mouche. On a par exemple un texte de bienséance et de coquetterie féminine espagnole qui explique qu'au XVIIIe siècle, sur la tempe gauche, une mouche, ça veut dire « je suis en couple ». Sur la tempe droite, ça veut dire « je vais rompre, donc je cherche potentiellement quelqu'un ».
C'est trop con pour
pas de mouche, ça veut dire « je suis célibataire ».
C'est l'art Tinder, quoi.
Voilà. J'adore la deuxième, c'est en mode sur Facebook « it's complicated
». Mais du coup, c'est quoi, parce que ton mec peut le savoir, genre « putain, elle va rompre ».
Et on parle d'ici d'amant, mais pas de mari.
Bah oui.
C'est-à-dire que voilà, bah oui, souvent c'est la femme mariée qui porte la mouche, mais là on est en plein dans le siècle du libertinage. Et on a certaines femmes qui se disent « Ah oh bah moi j'aimerais bien avoir une mouche permanente parce que c'est archi relou de payer des bouts de taffetas noirs. »
Qu'est-ce qu'elles ont fait ?
Et donc elles se dessinent des mouches au pinceau trempé dans du nitrate d'argent. Donc tu te dis sur le blanc de céruse, le beau cancer de la peau. Alors je sais que le nitrate d'argent aujourd'hui il est utilisé, enfin là je dis peut-être une énorme connerie, mais je crois qu'il est utilisé en médecine, mais pour des ongles incarnés, des trucs comme ça. Enfin je sais qu'il peut être utilisé, mais je pense qu'il est archi dosé à mon avis, celui qui l'utiliser, t'es pas du tout dosé. Donc,
moi qui pensais que les cosmétiques avant étaient plus naturels,
pas du tout. Alors, en fait, une bonne recette naturelle, si tu veux, pour avoir le teint frais, Madame de Montespan, tous les matins, elle buvait un grand verre d'urine de mule. Ça, c'est naturel.
C'est vrai, charmant.
Voilà. Ouais. Voilà.
Je crois que ça peut servir à enlever les verrues, le nitrate d'argent.
Voilà, c'est formidable.
C'est pas elle aussi qui mangeait des roses pour que
quand elle pète, ça sente bon.
Voilà.
Ouais. Mais un jour,
mais ça marchait.
Je pense qu'un jour, je vous ferai un sujet sur les.
Attends, là, ça me décide.
On en reparlera, ça. Ça va tourner la tête d'un coup, ça marche. Cherche un truc là.
Si tu vas aller chez tous les fleuristes.
Bonjour.
Donc voilà, il y a certaines femmes qui s'en dessinaient. Et donc là, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh, bah, pourquoi pas, en fait, une mouche, c'est plutôt coquet, c'est un joli petit grain de beauté bien fixé. Oui, mais dites-vous bien qu'on en mettait souvent sur chaque bouton. Donc il est très très rare qu'on ait qu'une seule mouche sur le visage. Il n'était pas rare que homme ou femme porte jusqu'à 15 mouches sur le visage.
Mais c'est horrible,
mignonne.
Et je sais pas. vu, je sais plus si c'est pour Marie Edzinska ou Marie-Antoinette, mais je crois que c'est le premier portrait que Louis XVI a reçu de Marie-Antoinette. Elle a été peinte avec 5 ou 6 mouches sur le visage, enfin, en tout cas un grand nombre pour une... Pour un portrait,
pour
en général,
petite tête,
non, mais sur les portraits, on ne met pas autant de mouches. Et c'était probablement lié au fait que Marie-Antoinette avait 13 ans et demi et qu'elle était en pleine période d'acné
juvénile de roi Cutane.
Mais non, mais là encore, les peintres, c'était des bâtards.
Et
parce
qu'elle a planqué ses ch'tards avec ses mouches.
C'est pas une photo.
Oui,
quoi.
C'est ça, il aurait pu juste dessiner la peau sur les mouches. Ah, j'ai pas assez d'imagination, désolé, j'arrive pas à me projeter.
Donc voilà, une petite anecdote, parce que c'est gratuit, Madame de Pompadour, dont on ne parle jamais assez, elle se mêlait vachement de pouvoir, la Pompadour. C'est-à-dire que voilà, les affaires du roi, c'est aussi ses affaires. Et donc des fois, elle s'incrustait un petit peu au conseil des ministres, et puis elle regardait un petit peu les plans de guerre, etc., d'attaque et tout, parce que Louis XV, c'est un roi, il a fait la guerre comme c'est même pas permis. Et elle, quand elle était pas d'accord, et puis qu'elle voulait donner des conseils et tout, pour représenter l'armée, elle disposait ses mouches comme ça sur la la meuf, elle ouvrait sa boîte à mouches, t'es bim
là. Alors là, il y a un bataillon.
Et elle balançait ses mouches, voilà. Donc, après la Révolution française, la mouche reste relativement présente au 19e siècle, mais chez les vieilles, en fait, c'est considéré comme un truc absolument beauf et has-been. Donc, ça tombe en désuétude. Jusqu'aux années 40-50, où la mouche est remise à l'ordre du jour, mais cette fois-ci dessinée, notamment Marilyn Monroe, qui est probablement la femme la plus célèbre avec une mouche. Et plus récemment, Dita Von Teese, qui s'est carrément fait tatouer une mouche sur le visage. Je savais pas que c'était un tatouage qu'elle avait. Ouais. Mais voilà. Ouais.
Et Enrique Iglesias, il se l'est fait enlever, lui, ça.
Mais voilà, chacun sa mouche.
Chacun ses rêves.
Oui, on en parlera tout à l'heure de comment tu connais ça.
Et même pour conclure, il me semble que le piercing qui se situe au-dessus de la lèvre s'appelle un piercing Marilyn ou un piercing mouche, justement. Absolument.
Ok, et voilà. Pas une baiseuse, c'est dommage. Bah merci beaucoup, c'était passionnant.
Oui,
encore une fois, je me rends compte que je ne sais que trop peu de choses et je ne sais pas comment vous entendez parler de certaines anecdotes, mais pareil, on ne juge pas. L'information est partout, c'est important. Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir parce qu'on arrive au terme de cet épisode. Oui. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir.
Nous, on était très contents.
Depuis le temps.
Oh non, c'est pas vrai.
Non, en vrai, c'est un grand, grand plaisir. Et puis, bien évidemment, ça fait déjà un moment que j'avais proposé à Greg de recevoir d'autres de ses compères. Ça marche, non. Non, c'était un gros plaisir et c'était très cool. Vos sujets étaient très chouettes, vos émissions sont très cool, bravo.
Oui, merci beaucoup à vous. Merci à vous.
Si vous n'avez jamais écouté Culture 2000, 2 heures de perdu, je vous encourage à le faire très fortement,
mais
très
rapidement.
S'il y a des lives,
genre tout de suite,
on vous conseille de prendre vos places très très vite parce que ça part à une vitesse folle. Tout à l'heure, je crois qu'on a parlé du Bataclan, c'était pas du tout une blague. Ils ont réussi à booker le Bataclan en 48 minutes.
Absolument.
Plus vite que Pete Doherty.
Parce que là, elle fait un peu humble et tout, et genre putain.
Peut-être que sale droyer.
Pete est peut-être devenu un peu has-been aujourd'hui.
Peut-être. Oh, puis de toute façon, je pense qu'il est pas sur la même planète que nous, mais bon, ça va. C'est mieux que le chanteur de 30 Seconds to Mars qui est plus du tout sur la même planète. Mais bon, c'est là, on part dans d'autres histoires. En tout cas, c'était un grand plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup?
Alors, sur Spotify, sur Deezer,
sur iTunes
et
sur toutes les autres plateformes.
Site internet aussi, de Fréquence Moderne.
Et puis sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, voilà, partout, on est partout en fait.
Partout.
Vous êtes Al.
Exactement. Nous, bah, du coup, on va vous retrouver dans 2 semaines.
Oui.
On va bientôt finir cette petite saison 3 qui finira à la fin de l'année, comme d'habitude.
J'espère que je serai de meilleure forme.
Bon, c'était bien, c'était très bien.
T'as le temps de guérir quand même d'ici là.
On sait jamais.
Ça va bien passer.
Optimisme.
Et puis voilà, normalement, on ne fera pas de live en cette fin d'année, puisqu'on a fait un live l'épisode précédent que vous avez dû écouter, j'espère. Mais on en prépare un pour 2020. Et qui devrait être normalement plus gros que les précédents. Donc on a très très hâte. Ça va être un peu plus de taf, mais voilà, ça devrait être cool. On a très très hâte.
Ouais, on a hâte aussi.
Cool. Sur ce, on vous dit à bientôt. À dans 2 semaines.
Prenez soin sur vous.
Prenez soin des autres.
Bisous.
Ciao.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries.
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend.
But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.